Valérie Nivelon.
Samedi à 14h10, temps universel sur RFI.
Vous écoutez Radio France Internationale, il est 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Et 8h à Gaza, bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Deux réalités totalement opposées à la une de votre journal.
Celle d'abord rêvée par Donald Trump pour Gaza, qui voit bien l'enclave palestinienne transformée d'ici quelques années en un complexe luxueux. Et puis celle du terrain, territoire dévasté par près de 2 ans de bombardements israéliens. RFI a pu y retourner, reportage dans un instant. Donald Trump, fidèle à lui-même, une nouvelle fois sur tous les plans. Il fait face aux Européens qui affirment vouloir ne rien lâcher face aux ambitions territoriales américaines et vouloir continuer à défendre leurs intérêts. Le président américain qui a rencontré hier Volodymyr Zelensky, l'Ukrainien, annonce une rencontre trilatérale aujourd'hui et elle est confirmée par Moscou. Délégations américaines, russes et ukrainiennes ont donc rendez-vous ce vendredi à Abu Dhabi.
Le président américain s'autoproclame une nouvelle fois faiseur de paix.
En inaugurant à Davos, en Suisse, en marge du Forum économique mondial, son conseil de la paix, censé initialement superviser l'accord pour la bande de Gaza, l'enclave palestinienne dont a parlé Donald Trump ce jeudi.
Nous nous engageons à faire en sorte que Gaza soit démilitarisée, correctement gouvernée et magnifiquement reconstruite. Ce sera un plan formidable. C'est là que le Conseil pour la paix a vraiment commencé. Et je pense que nous pourrons nous étendre à d'autres domaines à mesure que nous réussirons à Gaza. Nous allons très bien réussir à Gaza.
Le président américain qui en a profité pour révéler ses ambitions pour un nouveau Gaza, potentiellement transformé, je le disais, en un complexe luxueux de gratte-ciel en bord de mer, un projet qui pourrait naître d'ici 3 ans.
Mais pour l'heure, la réalité est tout autre à Gaza.
Comme a pu le constater Frédéric Misselin, bien que la zone soit interdite à la presse de façon indépendante, notre correspondante a pu y entrer, escortée par l'armée israélienne, aux côtés d'une douzaine d'autres journalistes internationaux. Cela faisait un an qu'RFI n'était plus entré dans Gaza de cette manière. Reportage.
Nous allons vers cet avant-poste. La menace est réelle dans la zone. Ne restez pas groupés.
L'armée israélienne emmène les journalistes dans la bande de Gaza sur un promontoire à 400 mètres de la ligne jaune. Cette ligne sépare l'enclave en deux parties depuis le cessez-le-feu, l'une contrôlée par Israël, l'autre par le Hamas. La zone est dévastée, on devine d'anciennes serres agricoles dont il ne reste plus que quelques morceaux de plastique et des bouts de ferraille. Les chars israéliens pointent leurs tourelles vers les décombres d'une ancienne habitation. Au loin, au-delà de la ligne jaune, la ville de Deir el-Bala, avec des maisons, des immeubles debout, mais sans fenêtres, sans murs, des édifices détruits, les stigmates de 2 années de guerre sont encore visibles, même à bonne distance. Des détonations retentissent. Nadav Shoshani est un des porte-parole de l'armée. Il explique les opérations menées dans la zone.
Le Hamas a construit le système de tunnels terroristes le plus complexe au monde et nous nous efforçons de le trouver et de le démanteler afin d'éliminer la menace et de faire de Gaza un endroit où il est possible de reconstruire.
Le bruit des bulldozers est incessant. Sur la colline, il déblaye. Donald Trump, lui, a annoncé hier un nouveau Gaza. Il réactive son projet immobilier de luxe pour l'enclave palestinienne. Frédéric Misselin, de retour de la bande de Gaza, RFI.
Et sachez qu'Ali Shaas, à la tête du comité de gouvernance palestinien dans le cadre de l'accord de paix, a annoncé que le point de passage de Rafah entre l'Égypte et l'enclave palestinienne allait rouvrir, et cela dans les deux sens, la semaine prochaine, sans pour l'heure préciser le jour de cette réouverture.
Le conseil de paix de Donald Trump qui laisse perplexe de nombreux acteurs internationaux.
A commencer par l'Union européenne qui dit avoir de sérieux doutes à propos de cette nouvelle instance, particulièrement sur sa compatibilité avec la Charte des Nations Unies, mais aussi sur son champ d'action et sa gouvernance, même si le président américain avait assuré un peu plus tôt que son conseil travaillerait en coordination avec l'ONU. Des doutes émis côté européen, notamment par Antonio Costa, le président du conseil qui s'exprimait à l'issue d'une rencontre des 27 sur la relation transatlantique.
Réunion qui avait été décidée après les ambitions affichées par Washington sur le Groenland.
Oui, et maintenu même après le retour en arrière effectué par Trump sur les menaces de droits de douane et sur le recours à la force pour s'emparer du territoire autonome danois. Je vous propose d'écouter Antonio Costa.
L'imposition de droits de douane supplémentaires aurait été incompatible avec l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. L'objectif reste la stabilisation effective des relations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Dans le même temps, l'Union européenne continuera à défendre ses intérêts et à se protéger, ainsi que ses États membres, ses citoyens et ses entreprises contre toute forme de coercition. Elle dispose du droit et des moyens de le faire et n'hésitera pas à y recourir si nécessaire.
And we'll do so if and when necessary.
Antonio Costa, président du Conseil européen, l'UE, pointé du doigt par Volodymyr Zelensky, le chef d'État ukrainien, parle de fragmentation et d'un bloc qui semble perdu face à Donald Trump. Le président américain, avec qui Kiev aurait trouvé un accord sur les garanties de sécurité quant à un plan de paix pour l'Ukraine. Pas d'avancée, en revanche, sur les questions territoriales. Volodymyr Zelensky qui a annoncé dans le même temps l'organisation d'une première rencontre trilatérale entre son pays, les États-Unis et la Russie.
Trilatéral confirmé par Moscou dans la nuit.
Oui, après près de 4 heures d'entretien entre le président Vladimir Poutine et Steve Witkoff, l'émissaire américain notamment, la réunion entre les trois parties doit débuter dans quelques heures aux Émirats Arabes Unis. Et lors de ces longues discussions à Moscou avec la délégation américaine, la Russie n'a rien changé à sa ligne ni à ses exigences, Anissa El Jabri.
Franc et confidentiel, c'est comme ça que le Sherpa diplomatique du Kremlin a qualifié le très long échange nocturne avec la délégation américaine dans la capitale russe, le premier depuis que les Européens notamment ont modifié le premier plan de règlement du conflit mis sur la table cet automne. On ne sait rien de la position du Kremlin précisément après la rencontre, mais rien ne semble avoir bougé sur les attentes fondamentales. Yuri Ushakov, le conseiller diplomatique du Kremlin, a répété mot pour mot ce que le pouvoir dit depuis des mois.
Plus important encore, lors de ces entretiens entre notre président et les Américains, il a été réitéré que sans solution à la question territoriale, il n'y a aucun espoir de parvenir à un règlement à long terme. Comme l'a souligné Vladimir Poutine, nous souhaitons sincèrement résoudre la crise ukrainienne par des moyens politiques et diplomatiques. Jusqu'à ce que cela soit réalisé, la Russie continuera de poursuivre systématiquement les objectifs fixés pour l'opération militaire spéciale.
Le chef de la délégation russe à Abu Dhabi s'appelle Igor Kostyukov, sur le papier chef d'état-major adjoint. Il est réputé pour être le chef du renseignement militaire russe, sanctionné depuis 2016 par les États-Unis pour ingérence dans les élections, sanctionné par les Européens depuis janvier 2019 pour le stockage, le transport et l'utilisation du Novichok à Salisbury, l'empoisonnement à un puissant neurotoxique des Skripal père et fille sur le territoire britannique. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
Donald Trump, encore lui, qui affirme, je le cite, qu'une armada navale est actuellement en route pour le golfe Persique, maintenant ainsi la pression sur l'Iran. Je préférerais que rien ne se passe, dit-il, mais nous surveillons de très près Téhéran sous sanctions européennes et américaines, mais qui parvient à les contourner. Nathanaël Vitran vous explique comment dans une heure. Ce sera le dossier du journal de 8h.
Des manifestations procurent d'un peu partout dans le monde depuis quelques jours.
Alors qu'au moins 134 000 personnes ont été déplacées selon les Nations Unies face à l'avancée des forces gouvernementales syriennes dans le nord-est du pays. Kobané, ville symbole de la lutte contre le groupe État islamique il y a 10 ans, est désormais assiégée. Alors hier en France, à l'Assemblée nationale, des représentants de l'administration autonome kurde ont été invités à parler de la situation par des députés de la France insoumise. Objectif, Abla Junaidi, alerter Paris contre l'abandon des combattants kurdes.
Le réseau est coupé.
La ligne avec Kobané est capricieuse. Depuis la ville du nord-est syrien, la commandante en chef des unités de protection de la femme, Rohiglat Afrin.
Kobané est encerclée, assiégée, les réseaux d'eau, d'électricité et internet sont coupés. C'est le cas aussi de toutes les routes qui mènent ici. Depuis quelques jours, on essaie d'ouvrir un corridor humanitaire pour faire acheminer de l'aide, des vivres, mais sans résultat. Il y a grand danger pour la communauté.
La combattante précise que les femmes sont particulièrement visées par les exactions commises ces derniers jours par les groupes affiliés à Damas. Rien de cela ne serait arrivé si les forces kurdes n'avaient pas été abandonnées par Washington et Paris. Les anciens alliés dans la lutte contre l'État islamique s'insurge le député français de la France insoumise Arnaud Le Gall. Il est membre de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée.
Le lâchage à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des forces kurdes de l'FDS, pose un problème moral parce qu'on ne trahit pas comme ça des alliés, des frères d'armes. de l'armée française et pose aussi un problème tout simplement de réalisme. Ce qui se joue en Syrie à l'heure actuelle concerne notre sécurité, y compris en France. Il faut le dire et le redire.
Pour l'heure, l'Élysée continue d'appeler au dialogue entre Damas et les FDS. Dialogue rompu depuis l'avancée éclair des forces gouvernementales.
À Blaj Vounaïdi, hier soir, alors qu'une manifestation kurde avait lieu à Anvers en Belgique, 6 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement dans une attaque au couteau.
Les produits chinois inondent l'Afrique.
Pékin, face à la pression américaine, cherche des débouchés nouveaux, ce qui creuse un déséquilibre commercial record de plus de 100 milliards de dollars sur l'année écoulée. Les ventes africaines vers la Chine, en effet, progressent beaucoup plus lentement. RFI Pékin, Cléa Broderst.
En 2025, la Chine a porté son excédent commercial avec l'Afrique à un niveau historique. 102 milliards de dollars, soit une hausse de près de 65% en un an. En cause, une déferlante de produits manufacturés chinois, panneaux solaires, matériaux de construction, machines industrielles, équipements électroniques, qui a fait bondir les exportations. Cette accélération s'explique par la guerre commerciale avec les États-Unis. Sous les tarifs imposés par Donald Trump, Pékin cherche des marchés de repli pour ses entreprises. L'Afrique, avec sa croissance démographique, ses besoins colossaux en infrastructures et une forte demande pour des biens à bas coût, devient un débouché stratégique. Mais le déséquilibre demeure profond. Près de 90% des exportations africaines vers la Chine restent des matières premières. Cuivre, pétrole, cobalt, or. Pékin a bien supprimé les droits de douane sur les produits africains, mais cela ne suffit pas à compenser le manque d'industrialisation locale et les barrières non tarifaires. Résultat, des industries africaines fragilisées et un risque de dépendance durable. Une question centrale, comment convertir ce déluge d'importations en levier de développement local ? Cléa Broderst, Pékin, RFI.
Et puis la plateforme chinoise TikTok annonce la création d'une co-entreprise aux États-Unis pour éviter son interdiction. Un accord salué par Donald Trump qui remercie son homologue chinois Xi Jinping de l'avoir approuvé. On en parle également dans le prochain journal dans une heure.
Et on referme votre journal, Nemo, avec une sortie cinéma.
Et Chloé Zhao signe Hamnet, un drame historique sur la famille de Shakespeare dans lequel elle prend ses libertés pour raconter l'histoire de la genèse de la célèbre Hamlet. Elisabeth Le Quéré.
You know everything about a person by touching them here.
Not everything.
Qui connaît le prénom de la femme de Shakespeare? Chloé Zhao lui en donne un, Agnès. Pas Anne Hathaway, le prénom qu'on trouve dans les livres d'histoire, mais Agnès, prénom inventé par la romancière Maggie O'Farrell et repris par la cinéaste. Cette liberté en dit long. Le film façonne son propre mythe, brodant sa légende autour d'une silhouette féminine restée dans l'ombre. Il s'ouvre comme un conte et même un conte de fées, faisant miroiter les mille feux de la passion amoureuse entre William et Agnès. Mais un drame survient, auquel le couple ne résiste pas. Drame intime qui va donner naissance à l'une des pièces les plus connues du barde, Hamlet.
I am myself indifferent on it again.
Chloé Zhao creuse ici l'idée romantique, mais assez datée, selon laquelle un chef-d'œuvre ne peut n'être que des tourments endurés par son auteur. Au moins, le récit qui précède a-t-il pu cocher toutes les cases d'un précis féministe.
8 nominations pour Hamlet aux Oscars, alors que Sinners de Ryan Coogler bat des records avec 16 nominations devant les 13 d'une bataille après l'autre.
Et c'était Nemo en bis pour le journal RFI 7h13. À Paris, 6h13 en temps universel. Un an après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a un impact sur de nombreux dossiers internationaux. L'Ukraine, Gaza, le Groenland, mais aussi les sciences. Les chercheurs déplorent des coupes importantes dans de nombreuses disciplines. On en reparle dans 5 minutes avec notre invité Alain Puisieux de l'Institut Curie. Mais pour l'heure, c'est le journal des sports avec vous, Victor Messistrano. On commence par le football. Après la Ligue des Champions, la Ligue Europa hier soir, l'Olympique Lyonnais continue de faire la course en tête.
L'OL s'est assuré une place dans le top 8 avant même la dernière journée. Qualification directe pour les huitièmes de finale acquise grâce à une sixième victoire en 7 matchs à Berne chez les Young Boys 1-0. But de l'anglais Maitland-Niles juste avant la pause. Lyon reste en tête de cette poule unique de 36 équipes à égalité de points avec Aston Villa qui est pour sa part allé gagner à Fenerbahçe 1-0. Nice n'est plus lanterne rouge. L'invraisemblable série de 18 matchs européens sans victoire a pris fin hier soir pour le gym tombeur des Go Ahead Eagles 3-1 avec un doublé du portugais Thiago Gouvea.
Mais ça se complique pour Lille. Le LOSC a concédé un quatrième revers sur ses 5 dernières sorties en Ligue Europa.
Pourtant, en supériorité numérique à partir de la demi-heure de jeu, les Lillois se sont inclinés 2-1 en Espagne sur le terrain du Celta Vigo. Il faudra faire mieux jeudi prochain contre Fribourg pour espérer remonter un peu au classement. Hier soir, c'est Olivier Giroud qui a réduit le score. L'attaquant français qui a du mal à digérer ce mauvais résultat.
C'est ce premier but d'entrée qu'on prend au bout de 30 secondes, je crois. Alors qu'on s'était fait punir en tout début de match aussi contre Lyon. On s'est dit des choses, mais on recommet les mêmes erreurs. Et ce deuxième but aussi qui me fait enrager, ouais, parce qu'à 1-0, il reste à portée de tir et ce deuxième but nous tue, voilà, et on réduit le score qu'à la fin du match. On a manqué énormément de justesse dans les 30 derniers mètres. Après, ils ont défendu bec et ongle leur résultat en perdant du temps et on savait que ça allait être difficile, mais on a manqué trop de justesse sur le dernier geste ou l'avant-dernier geste.
Au classement, le LOSC est 22e et donc virtuellement toujours qualifié pour les barrages.
En tennis, Victor, il n'y a déjà plus de Français à l'Open d'Australie.
Le seul représentant présent au troisième tour à Melbourne, Corentin Moutet, n'a pas créé l'exploit contre le numéro 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur en 3 manches. Ça passe aussi pour la numéro 1 mondiale, la Biélorusse Arina Sabalenka qui a éliminé l'Autrichienne Anastasia Potapova 7-6-7-6. Et puis pour sa première à Melbourne, Victoria Mboko rejoint pour la première fois les huitièmes de finale d'un tournoi majeur. La Canadienne de 19 ans a écarté la Danoise Clara Tauson en 3 manches.
À l'Euro de handball, à présent un premier faux pas pour les tenants du titre.
Une défaite de la France contre le Danemark 32-29 après un match irrespirable. Défaite amère pour le sélectionneur des Bleus, Guillaume Gilles.
C'est comme on l'avait imaginé, c'est la poule attendue avec des matchs qui vont se jouer sur quelques ballons, sur quelques défenses ou quelques situations favorables et qu'il va falloir on négocie mieux à l'avenir parce que l'urgence change de camp, comme à chaque fois dans cette formule de l'Euro.
Guillaume Gilles interrogé par nos confrères de Bein Sport, les Bleus qui devront se relancer face au Portugal demain.
Et Victor Missistrano pour le Journal des Sports. Aujourd'hui l'économie avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marion.
Vous nous parlez ce matin du secteur de l'alcool, un marché gigantesque estimé autour de 1700 milliards de dollars. Sauf qu'il traverse une crise et les ventes ne vont pas aller mieux ce mois-ci Stéphane puisqu'il s'agit du mois sans alcool.
Oui, le fameux dry January, traduisait janvier sec. C'est durant cette période de l'année que les producteurs d'alcool vendent le moins. Mais pour la première fois, depuis des décennies maintenant, l'industrie mondiale de l'alcool donne des signes clairs d'essoufflement sur du plus long terme. Un ralentissement qui touche la consommation, les ventes et à présent donc la production elle-même. Car en fait, Marion, pendant longtemps, l'alcool a été considéré comme un marché refuge. Il a toujours fait face aux crises portées par la démographie, par la mondialisation et la hausse mondiale du niveau de vie.
Et ce que l'on constate donc, c'est que cette dynamique se grippe, voire qu'elle prend forme.
C'est exactement ça. Les grands groupes mondiaux font face à des volumes qui stagnent ou qui reculent. Les stocks explosent et plus inquiétant encore pour eux, la demande ne suit plus les capacités de production. Selon des chiffres compilés par le Financial Times, 5 des plus grands producteurs d'alcool au monde cotés en bourse détiennent pour 22 milliards de dollars de spiritueux, soit le niveau de stock le plus élevé depuis plus de 10 ans maintenant. Autrement dit, Marion, l'alcool est trop abondant pour un monde qui boit moins.
Et ça coûte de l'argent aux entreprises productrices.
Oui, car l'abstinence temporaire du dry January s'installe dans des trajectoires plus longues. Par exemple, en France, les ventes d'alcool en restauration chutent de plus de 20% en janvier. Et surtout, il n'y a pas de retour au niveau antérieur les mois suivants. Donc, année après année, c'est mathématique, la consommation, elle diminue. Et le phénomène n'est pas que franco-européen, il est globalement mondial. Aux États-Unis, premier marché mondial de spiritueux, les ventes de vin reculent. La bière stagne. En Asie, les jeunes générations consomment moins d'alcool que leurs aînés. Résultat, les prévisions optimistes du secteur d'il y a à peine 10 ans qui pariaient sur des classes moyennes consommatrices ne se réalisent finalement pas.
On est donc un peu dans un changement de cycle pour la filière.
Oui, en raison d'abord de la santé, évidemment. C'est une variable économique, hein, on ne va pas l'oublier. Les consommateurs intègrent de plus en plus le coût sanitaire dans leurs décisions d'achat et donc de consommation. On peut aussi pointer du doigt le pouvoir d'achat, car dans un contexte inflationniste, l'alcool devient une dépense à arbitrer. Et puis c'est lié finalement, il y a un changement générationnel. Les moins de 35 ans boivent moins que leurs parents et ils sortent différemment. Le problème donc pour cette industrie, c'est que c'est systémique, ce n'est pas qu'une situation de passage.
Ça veut dire que le pic historique de la consommation mondiale a été atteint ?
Et ben voilà, c'est toute la question. Oui, hein, ce n'est pas la fin de l'alcool, non, mais oui, peut-être. Ce pic de consommation pourrait être atteint, un peu comme pour le pétrole ou pour le tabac. Le marché pourrait entrer dans une phase longue de stagnation, voire de déclin lent. Pour le secteur, le défi est évidemment là, car durant les prochaines années, il va devoir s'adapter à un monde où l'alcool n'est plus forcément central, mais bien souvent occasionnel.
Stéphane Genest pour Aujourd'hui l'économie. RFI 7h19 à Paris. Groenland, Ukraine, Gaza, Donald Trump est partout impliqué dans de nombreux dossiers mondiaux. Un an après son retour à la Maison-Blanche, il fait presque chaque jour même la une de la presse avec de nouvelles menaces, de nouvelles mesures, de nouveaux droits de douane. Le début de mandat du président américain est aussi marqué par cette baisse drastique des financements pour des secteurs clés comme la recherche. Arnaud Pontus en parle ce matin avec notre grand invité international Alain Puisieux, président du directoire de l'Institut Curie à Paris.
Bonjour Alain Puisieux.
Bonjour.
Merci d'être sur RFI. Nous voici donc un an après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Est-ce que le monde des sciences se porte plus mal depuis le début de ce second mandat ?
Malheureusement, la réponse est oui, et même un grand oui. Oui, il se porte plus mal. Il faut savoir que les États-Unis ont été, pendant des décennies, des leaders mondiaux dans le domaine de la science et de la recherche. Et il s'avère qu'en un an, il a réussi à démanteler, l'administration Trump a réussi à démanteler des pans entiers de la recherche. On s'attendait à ce qu'il s'attaque à certains pans particuliers. Malheureusement, on s'y attendait. Je pense en particulier à la climatologie. Ce qui a été plus surprenant, au-delà de la brutalité avec laquelle ça a été fait, c'est qu'il s'est attaqué à d'autres pans de recherche, et en particulier dans le domaine de la santé.
Oui, la santé, vous êtes tout à fait indiqué pour nous en parler. Je rappelle que votre institut, l'Institut Curie, c'est le premier centre français de lutte contre le cancer, le premier centre européen de prise en charge de cancer du sein. Si on met le cancer de côté, on va constater qu'il y a à peine 2 semaines, le ministère américain de la Santé a retiré 6 vaccins de la liste des recommandations pour les enfants. Est-ce que le scientifique que vous êtes, le médecin que vous êtes, le professeur que vous êtes, peut déjà en mesurer les conséquences possibles ?
Oui, oui, et je peux même enlever l'adjectif possible à votre question. Oui. On en mesure déjà les conséquences, et vous avez raison de parler des problèmes de vaccination. Il se trouve que donc a été mis à la tête de ce qui est l'équivalent du ministère de la Santé en France, Robert Kennedy Jr., qui est connu pour ses positions anti-vax.
Un anti-vax, oui.
Voilà, c'est un anti-vax, il ne l'avait pas caché, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été mis à cette position par l'administration Trump, et ça a des conséquences importantes. Donc ça a des conséquences, comme vous le dites, il y a des vaccins donc maintenant qui ne sont plus recommandés, mais on voit déjà, après un an et quelques, on voit déjà certaines maladies infectieuses qui réémergent aux États-Unis, qu'on ne voyait plus. Je pense en particulier à la rougeole, et du fait justement de ce manque de vaccination qui commence à être mis en place. Et il y a eu, dès 2025, donc des décès d'enfants du fait de la rougeole, qui était a priori une maladie considérée comme éradiquée aux États-Unis.
Déclarée éliminée du territoire américain en 2000, 25 ans plus tard, elle revient. Effet direct, c'est certain, de cette campagne anti-vaccination ?
C'est toujours difficile, c'est certain. Les arguments sont extrêmement forts pour effectivement le penser. C'est effectivement une conséquence directe.
Est-ce qu'on peut dire, sans exagérer le trait, que des personnes vont mourir du fait de ce qui se passe aujourd'hui ?
On n'exagère pas le trait, on en citait quelques exemples là, et il est fort à redouter en fait qu'il y ait des exemples en nombre beaucoup plus importants dans les années qui viennent. Pourquoi ? Je vais prendre un exemple précis qui, à mon sens, est absolument catastrophique. Je vous disais tout à l'heure, les États-Unis étaient très clairement un leader mondial dans le domaine de la recherche et de la santé, très clairement. Ils ont eu des initiatives au cours des dernières décennies extrêmement fortes, qui touchaient évidemment leur propre pays, les États-Unis, donc de façon très positive, mais aussi le reste du monde. En particulier, a été mis en place en 1961, très exactement, une agence, on peut l'appeler comme ça, qui s'appelle USAID, qui est une agence pour aider au développement dans le domaine de la santé dans des pays qui n'en ont malheureusement pas les moyens financiers, en particulier pour le sida, pour la tuberculose, pour le paludisme, par exemple. Donc là encore, il y a eu des diminutions absolument massives. On parle de 90% de diminution de budget.
Des fermetures de bureaux sur le continent africain, notamment.
Exactement. Et là, on pense rien. Il y a une étude très, très sérieuse par une revue prestigieuse, revue scientifique et médicale, qui s'appelle le Lancet, qui prévoit plus de 4 millions de décès à venir d'ici 2030, en particulier chez les enfants, parce qu'il n'y aura plus accès, comme hier encore, accès à certains, à certaines vaccinations ou bien à certains médicaments, je pense en particulier aux antirétroviraux pour le sida.
Cette politique va faire des morts, il n'y a pas de doute là-dessus. Le scientifique que vous êtes en fait le constat ce matin.
Malheureusement, il y a guère de doute.
Donald Trump a lancé une guerre contre les sciences qui ne se limite pas au domaine de la santé, coupes budgétaires, milliers de licenciements, retrait des États-Unis d'une soixantaine d'agences. Mais la recherche, elle est internationale, Alain Puisieux. Pourquoi est-ce qu'on doit s'inquiéter en Europe et ailleurs de la situation aux États-Unis ?
Alors, d'abord parce que, comme je le disais, c'est un leader. Or, vous le dites, la recherche est internationale. Donc, quand vous avez un leader, si on parle de cyclisme, oui, par exemple, un peloton qui avance, c'est le premier qui donne le rythme. Et c'est vrai que les États-Unis, il faut le reconnaître, les États-Unis donnaient le rythme. Et donc, à partir du moment où il y a un retrait du leader, ça veut dire que globalement, le rythme diminue si on ne prend pas les rênes de tout ça. Et c'est vrai que je pense que c'est toute la question aujourd'hui. Il faut, comme dans d'autres domaines, il me semble d'ailleurs, mais il faut notamment que les Européens reprennent les rênes. Je pense que nous avons...
Il faut prendre le relais, en fait.
Il faut prendre le relais. Et c'est-à-dire, ça passe par, si on veut devenir leader, ça passe par des investissements, et des investissements qui doivent être importants dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
Et là, on n'y est pas. Les investissements en Europe sont faibles. Et les investissements en France, si on parle de notre problème national, le budget de la recherche n'atteint toujours pas les 3% du PIB qui sont promis depuis tant d'années.
On en est très loin. On est à 2,17% aujourd'hui. On est en retrait par rapport à la moyenne des pays européens, la moyenne des pays de l'OCDE, 2,17%, dont aussi, il faut insister là-dessus, sur... il y a eu des choses qui tout à fait intéressantes qui ont été faites dans le domaine de l'innovation, notamment au travers du plan d'investissement d'avenir. En revanche, il y a tout un pan de la recherche qui est essentiel, qui est la recherche fondamentale, qui est la source même de l'innovation, qui aujourd'hui n'est pas assez soutenue et qui est de moins en moins soutenue. Or, je le disais, c'est la source. Si nous n'avons pas de recherche fondamentale pour améliorer les connaissances, après-demain, il n'y aura plus d'innovation. Il y a une étude récente, et d'ailleurs une étude américaine, qui s'est intéressée à la démarche qui a conduit à la mise sur le marché de 28 médicaments, tous domaines de santé confondus, qui ont révolutionné réellement la prise en charge thérapeutique.
On a 24, cherché la source, d'où ils viennent.
D'où ils viennent. Ouais. 24 de ces 28 médicaments venaient de la recherche fondamentale. Donc, si on...
C'est-à-dire, c'était une recherche, pardon, pour parler clair et pour tous, une recherche qui ne cherchait pas spécialement à trouver un médicament au bout.
Exactement.
Une recherche de compréhension.
Comprendre. Marie Curie disait, dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Et c'est vrai que ça passe par la compréhension. C'est par la compréhension qu'on peut, après, trouver des solutions. Et c'est très vrai dans le domaine de la santé. Donc, il faut absolument soutenir ce type de recherche. Et là, c'est vrai parce que ce sont des investissements à terme. Bah, je pense que, effectivement, les politiques qui ont des contrats, qui sont élus pour 4 ans ou 5 ans, peut-être ont des difficultés à avoir cette vision
à se projeter dans l'avenir. Est-ce que ce qui se passe aux États-Unis, ce qu'on décrivait au début de cet entretien, pourrait se passer en Europe, en France, un jour, Alain Puisieux ?
Je le crois, et je le crois d'autant plus que on voit bien que ceci n'est pas spécifique des États-Unis, ce qui est en train de se passer. C'est très spectaculaire parce que ce sont les États-Unis, et puis parce qu'il y a quand même une personne, voilà, qui est spectaculaire en soi. Je vais dire ça comme ça, et vous comprendrez les guillemets.
Oui, bien sûr.
Mais en fait, on voit la perte de la liberté académique, c'est-à-dire que les chercheurs puissent décider véritablement de leur projet, ce qui n'est plus le cas aux États-Unis.
De leur domaine de recherche, oui, de façon libre.
On le constate dans beaucoup de pays à travers le monde, beaucoup. Et on voit très bien, ce sont toujours des régimes autoritaires ou populistes, et ou populistes, à chaque fois.
Qui entravent la recherche.
Qui entravent la recherche. Donc non, je ne crois pas que la France soit à l'abri de cette problématique, et c'est un vrai sujet de réflexion, je pense.
Vous appelez par ailleurs à une conférence internationale sur le droit à la science. À quoi pourrait-elle servir, cette conférence, Alain Puisieux ?
Je crois que, justement, c'est pour positionner la France et l'Europe comme un pays leader en termes de liberté académique et d'importance, repositionner la science et la recherche comme des piliers fondamentaux de nos sociétés. Et je crois véritablement que l'Europe a un rôle important à jouer dans ce domaine. Et j'aimerais que les politiques, pour le coup, les décideurs, eh bien, prennent à bras-le-corps cette problématique et puissent se positionner au niveau mondial sur ce type d'approche de stratégie.
Il y a une présidentielle qui va venir, ce serait peut-être l'occasion, Alain Puisieux.
C'est très exactement ce que je pense et c'est pour ça que je vous remercie encore de votre invitation aujourd'hui pour pouvoir en parler.
Merci à vous, Alain Puisieux, d'être venu ce matin sur RFI.
Merci beaucoup.
Alain Puisieux, président du directoire de l'Institut Curie à Paris, grand invité international de RFI avec Arnaud Pontus, entretien à retrouver sur notre site RFI.fr ou bien sur notre application Pure Radio. RFI, on se retrouve dans 30 secondes pour le retour de l'actualité africaine.
RFI à Pointe-Noire, 93.2 FM. Pointe-au-Sel, 103.2 FM. Dans l'intimité des dictateurs.
Il a organisé le mariage. Bon, j'avais peur de lui. Hein. De toute façon, j'avais toujours très très peur.
Je m'appelle Michèle Ouimet. Je suis journaliste. J'ai tissé ma toile autour des femmes de dictateurs pendant des mois. Qui sont-elles? Comment se sont-elles retrouvées mariées à un dictateur? Quel rôle